France Culture.
France Culture, la fabrique de l'information, François Saltienne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Au lendemain de la Journée internationale des droits des enfants, nous nous intéressons à la manière dont les médias s'emparent de cet âge de la vie. Où sont-ils, ces enfants, dans nos journaux généralistes, sur les plateaux de télévision ou encore à la radio? Ils seraient relativement absents, invisibles ailleurs. Faut-il trouver une explication dans la définition floue de cette période ou dans l'origine même du mot enfant, qui signifie celui qui ne parle pas? On en parlera. Et lorsque les enfants surgissent dans notre espace médiatique, ils sont rapidement cantonnés à la rubrique des faits divers, piégés par leur statut de victime dans les affaires criminelles. Là encore, on les entend peu ou pas. Des enfants dont les adultes se moquent dans les chroniques humoristiques, ils deviennent l'objet de blagues de parents blasés ou épuisés. Dans les fictions populaires, leurs personnages sont souvent caricaturaux. Tout cela nourrit un narratif de domination physique ou symbolique des adultes sur l'enfance, dont on peine à considérer leur droit à être informé autant qu'à s'exprimer. Quel rôle joue la presse jeunesse dans la redistribution des récits, comme de la parole? Quel regard et inspiration pouvons-nous trouver ailleurs, comme en Suède, pays souvent pris en exemple dans sa juste considération de la parole de l'enfant? En un mot, comment expliquer la difficulté des médias à faire de l'enfance un sujet à part entière? Trois invités pour en parler. Marion Quercq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des droits de l'enfant et de la culture suédoise. On vous doit l'ouvrage « Une enfance en or », N-O-R-D, pour une éducation sans violence et à hauteur d'enfant. C'est paru aux éditions Marabout. Votre regard international sera précieux. À distance, Mathilde Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mediapart, en charge des droits des enfants et des violences faites aux enfants. Vous tenez ici un des rares espaces médiatiques dans la presse consacré à ce sujet. Enfin, Delphine Solière complète ce trio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice éditoriale pour le pôle jeunesse de Bayard et ancienne directrice des rédactions de Bayard Jeunesse. Vous êtes également passée par de nombreuses rédactions que les parents connaissent bien, d'Okapi à Astrapi. Cette semaine, pas de chronique de nos amis de Courrier International, notre partenaire que je salue, mais notre rendez-vous mensuel avec Emmanuelle Daviet, la médiatrice de Radio France, pour comprendre vos attentes et répondre à vos questions sur l'antenne. Enfin, je vous signale par précaution que cette émission abordera en partie des affaires de violence sexuelle sur des enfants, des propos qui peuvent heurter certaines et certains d'entre vous. Voilà le programme de l'épisode 12 de la Fabrique de l'Information. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre.
Tu mets tes chaussures, s'il te plaît. On va accompagner Ilias et Lila au théâtre.
Je vais vous dire que ça prend énormément de temps, les enfants, en général, bol.
Pour mettre la table, déjà, c'est quand même très compliqué. Et au milieu de tout ça, avec mon mari, on est là. Et il parle en plus de sujets qui ne nous intéressent pas du tout. Fortnite, Valorant, le dernier YouTuber machin.
Tu me respectes parce que moi, j'ai 8 ans.
On dit souvent que les enfants uniques sont pourri gâtés. On pourrait se dire ça parce qu'ils ont moins de frères et sœurs. Ce n'est pas ce que nous confirme la recherche scientifique. La tendance d'un enfant à être trop gâté dépendrait davantage du style éducatif de ses parents.
J'ai rien fait, moi.
Bon, on a déclaré qu'il fallait choisir son métier dès la maternelle. T'en penses quoi?
Je pense que c'est pas bien. On a tout le temps pour choisir.
Des coups qui s'entendaient à travers les murs, des enfants contraints, des douches glacées, à dormir dehors par zéro degré, à subir les viols de la part des surveillants et des punitions des plus grands. À Bétaram, la violence n'était pas un dérapage, elle était la règle, elle était sue et elle était voulue.
Léa a 8 ans. Lors des dernières vacances au centre de loisirs, son prof de gym s'est enfermé avec elle dans une pièce et a glissé sa main dans son pantalon. C'est ainsi que le petit quotidien a choisi de parler de pédophilie avec ses lecteurs, âgés de 6 à 10 ans.
Se mettre à la hauteur d'enfant, selon vous, ça veut dire quoi, hauteur d'enfant, clairement?
La hauteur d'enfant, c'est quand nous, adultes, nous allons faire tout notre possible pour nous mettre dans les baskets des enfants, pour les comprendre selon leurs propres conditions, depuis notre position d'adulte. Donc ça restera une position d'adulte.
Marion Quercq, on va poursuivre avec vous pour tenter de comprendre pourquoi les enfants sont absents ou invisibilisés dans les médias. Est-ce que c'est en partie parce qu'on considère que ce sujet relève encore de la sphère privée?
Oui, en partie, c'est sûr. C'est aussi un regard de méfiance qu'on a sur les enfants en France. L'idée dans les sciences de l'enfance et de la jeunesse, qui sont les études modernes sur l'enfance, c'est que l'enfance, c'est une construction sociale. C'est pas uniquement une période biologique où l'être humain est petit, ça on remet pas en question, bien sûr. Mais ce que nous montre en fait la construction sociale de l'enfance, c'est que la définition de l'enfance, elle va changer en fonction des époques, par exemple. La définition de l'enfance n'était pas la même il y a 100 ans, il y a 200 ans. Mais elle change aussi en fonction des cultures et des pays. Et ça montre bien, en réalité, que c'est construit socialement, culturellement, que ça répond à des besoins à la fois politiques et à la fois sociétaux. Et justement, quand on s'intéresse à cette construction sociale, on voit qu'en France, il y a vraiment un regard de méfiance. Dion Sommer, qui est un psychologue, un docteur en psychologie danois, il parle du filtre de la vision de l'enfant, qui permet en fait de voir quel est le regard de la société sur l'enfant. Et moi, en France, je parle du filtre de la méfiance versus le filtre de la confiance en Suède.
D'accord, donc méfiance, ça serait pour vous le maître mot qui désignerait majoritairement, en tout cas, le regard que peuvent porter les adultes sur les enfants. Déjà, peut-être, petite parenthèse, l'enfance, ça commence à quel âge? Ça s'arrête à quel âge? Est-ce qu'on arrive à définir justement l'âge de l'enfance?
En tout cas, selon la loi, c'est de 0 à 18 ans, en tout cas en France. Mais après, il y a des différences aussi entre les pays. Mais la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est 0 à 18 ans.
Delphine Solière, on entend méfiance comme un mot pour désigner justement le regard que nous, adultes, nous pouvons porter, du moins en France, sur les enfants. Vous confirmez cette impression-là?
Je pense que c'est un mot qui est très juste. Il y a une méfiance historique. L'enfant est une matière à tordre, à former, à éduquer, bien sûr, mais on parle de les tutorer, les faire se tenir droit. Enfin, et ça, vous voyez ça dès les prémices de la littérature de jeunesse. Si vous prenez la comtesse de Ségur, par exemple, où il y a à la fois beaucoup de figures d'enfants, et c'est des enfants qu'il faut corriger. Donc, ce mot de corriger était très présent dans la littérature de jeunesse, dans les premiers mots autour des enfants. Donc ça reste dans notre inconscient collectif.
Alors, d'où l'importance justement d'une convention des droits de l'enfant qui va peut-être essayer de sortir de cette perception de la méfiance. Enfin, la perception est là, mais du moins, on essaye d'accorder des droits et des reconnaissances en tant qu'enfant, en tant que personne. C'est un élément important, fondateur pour ça, Delphine Solière.
Oui, en fait, la convention, elle a achevé plus de 80 ans de réflexion qui sont nés déjà avec tous les premiers pédagogues du début du XXe siècle. Je pense à Piaget, Maria Montessori, qui ont fait changer le regard sur l'enfant petit à petit. Et puis ça s'est construit avec de nombreux chercheurs. Et cette convention-là, Korczak, dont il faut absolument citer le nom, qui est le grand initiateur des droits de l'enfant. Et cette convention-là, elle vient inscrire dans la loi et dans une loi internationale, un certain nombre de droits pour les enfants, et c'est fondateur. La question, c'est est-ce que ces droits sont maintenus partout, même en France?
Bien sûr, mais après, il faut quand même un texte fondateur sur lequel on peut se référer, puisque ça crée de la norme aussi, voire même des obligations. Dans ces droits, c'est le droit que l'enfant doit être écouté, en fait. On doit l'écouter, on doit l'entendre, une capacité à pouvoir justement s'exprimer. Mathilde Mathieu, je le disais, vous travaillez à Mediapart, vous avez initié ou créé un espace dans ce journal, dans ce média, sur la question de l'enfance. Est-ce qu'il y avait un peu de méfiance, justement, au moment où vous avez tenté de créer cet espace dédié à l'enfance au sein du journal?
Non, pas du tout. Au contraire, l'idée a été très bien accueillie quand j'ai fait cette proposition. Alors évidemment, l'enfance, on en parlait déjà dans la rubrique éducation, la rubrique santé, les collègues qui s'occupaient des violences sexuelles, par exemple. Mais c'est vrai que c'était pas pensé de façon transversale. Et moi, j'ai voulu... Alors, c'est pas tant une rubrique sur l'enfance que sur les droits des enfants et les violences qui leur sont faites. C'est par ce biais-là que j'ai eu envie d'aborder le sujet, donc de rappeler d'abord que les enfants ont des droits, qu'on parle des enfants victimes ou qu'on parle des enfants auteurs d'infractions, parce qu'on sort quand même d'une séquence politique assez folle, où le Parlement a examiné la proposition de loi de Gabriel Attal qui faisait suite aux révoltes urbaines et qui a voulu durcir la délinquance des mineurs et qui a imposé dans un texte des clichés, des propositions qui étaient quand même pendant longtemps celles de l'extrême droite, qui consistant à dire que à partir de 16 ans, on n'est plus vraiment un enfant, on n'est plus le même, enfin que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les enfants d'il y a 50 ans et qu'il faudrait durcir la réponse pénale. Et le Conseil constitutionnel a apporté un démenti cinglant à cette vision ultra répressive de la délinquance des mineurs, en censurant quasiment la totalité du texte de Gabriel Attal et en rappelant tout simplement que en France, les enfants ont des droits. Voilà.
On sent que c'est justement ce statut de sujet de droit qui reste encore fragile.
Oui, c'est très fragile. Voilà, le débat sur cette proposition de loi, ce texte l'ont montré. Mais moi, une des premières choses que j'ai voulu faire dans cette rubrique, c'est de travailler sur les infanticides, parce que c'est vraiment évidemment les violences paroxystiques qu'on fait aux enfants. Et j'avais constaté que dans beaucoup de médias encore, les infanticides intrafamiliaux sont considérés un peu comme un fait divers, comme une fatalité. Qui serait le fait d'adultes un peu monstrueux, un peu pervers, et encore beaucoup trop rarement comme, en fait, le résultat de violences sociétales systémiques. Et donc, j'ai voulu faire, au fond, ce que plein de journaux font maintenant sur les féminicides, c'est-à-dire une forme de recension. Et donc, j'ai travaillé comme ça sur tous les infanticides, en tout cas ceux qui avaient été rapportés par la presse régionale de l'année 2024.
Oui, vous parlez justement
d'un tableau un peu clinique.
C'est ça, vous parlez de 46 cas de morts violente d'enfants qui sera survenue justement en 2024 dans le cadre
voilà, donc qui est un chiffre évidemment largement sous-estimé, parce que c'est aussi un des constats que j'ai fait en faisant ce travail, c'est qu'on manque en France de statistiques fiables, consolidées sur le nombre d'enfants en fait qui meurent sous les coups de leurs parents. Il y a des études qui remontent à quelques années, mais on n'a pas les chiffres exacts. Donc on dit souvent c'est un enfant qui meurt ainsi tous les cinq jours, mais c'est sans doute davantage. Et je trouve que cette impensée statistique ou ce point aveugle statistique dit beaucoup de l'impensée politique sur le sujet.
Oui, vous avez cité justement les féminicides, Marion Couerc. On voit que peut-être la question de l'infanticide est en train de suivre ce chemin-là, c'est-à-dire que la difficile reconnaissance au début, le cantonner dans des histoires passionnelles, de faits divers, de la sphère privée, sans forcément y voir une question sociale, même un continuum.
Totalement. Bah, de toute façon, comme l'a dit Mathieu, il y a cette histoire que les enfants, on en parlait dans la rubrique éducation et santé. Mmh. Les enfants sont vus comme des objets d'éducation et les sujets d'enfance sont coltinés au sujet de parentalité, au sujet d'éducation. Et déjà en France, on a eu beaucoup de mal à faire rentrer l'enfance, et encore je parle au passé, je suis gentille, à faire rentrer l'enfance dans les sciences humaines et sociales, à faire comprendre qu'en fait c'est un sujet de sciences humaines et sociales. Mais aussi, c'est aussi parce qu'on a un trou noir monumental dans nos universités, en fait, où en France aujourd'hui les sciences de l'enfance et de la jeunesse, jusqu'ici, jusqu'en 2025, ça n'a pas existé, quoi. Donc à l'international, on a vraiment tout un domaine universitaire qui en France ne fait qu'éclore aujourd'hui, quoi.
Vous parlez beaucoup de la Suède puisque vous y avez habité, vous avez suivi des études là-bas. Justement, les sciences sociales concernant l'enfance, elles sont inscrites depuis longtemps dans ce pays ?
Oui, et puis particulièrement en Suède, c'est sûr. Ben moi, j'ai deux masters. J'ai fait un master des droits de l'enfant, d'une façon aussi qui a été faite, qui n'existait pas en France jusque-là. Et j'ai aussi un master en enfance et culture, qui n'existe pas en France, dans la branche des Childhood Studies, qui va justement étudier en fait nos représentations culturelles, la culture des enfants, et comment ça peut en fait changer la vie des enfants et leurs droits. Parce qu'encore une fois, tant qu'ils sont coltinés à être finalement des objets d'éducation et non pas des sujets de droit, on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, et nous avons aussi de bonnes intentions en France, hein, y a pas de malveillance, on ne pourra pas en fait lever cet impensé collectif.
Alors, puisque vous parlez de droit, je vous propose d'écouter un podcast qui a été réalisé en soutien aussi avec le droit des enfants, produit par Sonic et le soutien, je le disais plutôt, du défenseur des droits. Qui c'est qui commande ?
Est-ce que vous avez déjà entendu parler des droits des enfants ?
Oui,
on l'a fait à l'école.
C'est quoi les droits des enfants ?
On a le droit de courir, de aimer, on a le droit de faire des câlins, mais on n'a pas le droit de faire des bêtises ou faire de tout et n'importe quoi et casser des choses. Mais par contre, on a le droit d'être délicat, d'avoir des copains, on a le droit d'aimer l'école.
Les enfants ne me citent aucun de leurs droits de la Convention internationale. On ne leur apprend pas à l'école, ou quasiment pas, ni dans leur famille.
Moi, je pense qu'on nous écoute vraiment pas assez. Parce que c'est toujours les adultes qui décident.
C'est plutôt leur décision qui les importe et pas trop celle des enfants.
Moi, je trouve que les parents et les enfants, ils sont différents. Mais en même temps, les deux, ce sont des humains. Donc les enfants aussi, ils ont le droit d'être un peu plus pris au sérieux.
Tu peux pas faire changer d'avis les adultes. Après, ils vont te dire, oh, c'est pas toi qui décides, on est plus grand que toi. Ok, en fait, on peut rien faire sur ce sujet-là.
on peut rien faire sur ce sujet-là. Donc, extrait de ce podcast qui a été réalisé par Lolita Rivet. Donc, une vision un petit peu défaitiste. On peut rien faire sur ce sujet-là. On est en train justement d'en parler, de le traiter. On se rend compte aussi, Delphine Solière, lorsqu'on parle beaucoup des enfants, c'est souvent à l'occasion des affaires, hein, des affaires, quoi qu'on peut parfois cantonner aux faits divers, ou du moins des grandes affaires, comme il y a eu récemment. C'est difficile, justement, de bien les traiter, peut-être, ces affaires, et puis de ne pas de s'intéresser peut-être aux enfants en dehors de ces grandes affaires-là.
En fait, c'est comme si la vie des enfants, la vie quotidienne des enfants, qui représente 20% de la population, hein, autant que les seniors, ne comptait pas.
Alors qu'on parle beaucoup des seniors.
On parle des seniors de manière raisonnable et enfin intéressante.
À sa juste mesure.
À sa mesure, mais la part de l'enfant, la part de la vie de l'enfant sociale, elle n'existe pas. Effectivement, vous parliez de cette question de parentalité. Oui, l'enfant est présent dans des cas de problématiques éducatives, sanitaires, vaccins, machin. Mais l'enfance qui vit toute la journée, si on en parle, ça va être parce que c'est une catastrophe dans une école, quand il y a un empoisonnement à la cantine, vous voyez. Donc, ce qui fait la vie d'un enfant... Alors là, il y a une commission qui a été lancée sur les rythmes de l'enfant, on va voir ce que ça va donner. Mais est-ce que toutes les dimensions de l'enfant vont-elles être prises en compte?
Mais par exemple, vous qui avez travaillé dans beaucoup de journaux, justement des journaux jeunesse, vous êtes aujourd'hui directrice de la rédaction du Monde ou du Figaro, de Libération. Quel genre de sujet, par exemple, vous aimeriez voir et qu'on ne voit pas assez dans l'espace médiatique concernant les enfants qui sortent uniquement du cadre parental, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme sujet?
Par exemple, tout ce qui intéresse le monde culturel des enfants. C'est un monde absolument passionnant. C'est un monde de littérature, c'est un monde de théâtre, de cinéma ou de dessins animés de grande qualité dans lequel il y a tout. Il y a des trucs qui n'ont pas d'intérêt, des choses formidables. Voilà un sujet dont on ne parle jamais. Sauf si c'est une star qui est dedans. Vous voyez, c'est, pour moi, le champ de la culture jeunesse ou de la culture qui intéresse les enfants et les familles, parce que pour moi, l'enfant, c'est aussi intéressant de le faire interagir avec ses proches, frères, sœurs, cousins. Enfin, il est aussi dans une vision plus holistique. Ça n'intéresse pas. Ce qu'un enfant est capable d'apprendre. Par exemple, sur les compétences possibles, le cerveau d'un enfant, on n'en parle jamais. Un bébé, entre le moment de sa naissance et sa première année, c'est comme s'il faisait plusieurs fois la Terre à la Lune, en termes de distance et de propulsion dans d'autres univers. On ne le dit jamais, très rarement.
Marion Quirk, je vous vois acquiescer. C'est aussi peut-être une manière de dévaloriser aussi l'expérience. On parlait de la culture, c'est comme si leur pratique culturelle n'avait pas finalement assez de valeur pour être traitée dans les pages d'un journal généraliste.
C'est qu'on ne voit pas les enfants comme des êtres humains à part entière. On les voit comme des êtres humains en construction. On dit toujours d'ailleurs que c'est les adultes de demain. Oui, certes, ils le sont, mais ils sont aussi les enfants d'aujourd'hui. Et ils sont des sujets de participation. La Convention des droits de l'enfant, il y a la protection de l'enfant dont on... qui est vraiment le pan dont on parle en France, quoi. Mais il y a aussi la participation des enfants. Les enfants ne sont pas que des êtres vulnérables, ils sont des êtres compétents, ils vivent dans le monde dans lequel nous vivons aussi. Et en France, on est tout le temps à vouloir finalement les couper de ce monde, encore une fois, pas parce qu'on a de mauvaises intentions, mais parce qu'on ne considère pas les enfants comme des êtres humains à part entière. Donc on les reconnaît pas comme des personnes en fait, qui ont une vie culturelle. Potentiellement, quand on parle des écrans, c'est que pour dire interdisez les écrans. Il y a personne qui dit mais qu'est-ce qu'ils font les enfants sur les écrans? Pourquoi les enfants ils adorent aller sur les réseaux sociaux? Peut-être parce que justement ils peuvent jouer un petit peu avec les limites d'âge, ils peuvent se sentir plus grands, ils peuvent communiquer de façon qu'ils ne pourraient pas d'une autre manière. Mais ça, on ne s'y intéresse pas en France.
Et encore une fois, on tombe dans l'interdiction pure et simple en disant que ça va résoudre le problème. C'est là ça. Encore une dévalorisation des pratiques numériques, c'est-à-dire qu'ils y font pour y chercher quoi et qu'est-ce qu'ils trouvent dans les écrans qui n'existent peut-être pas dans l'espace physique. Physique ou ailleurs. Parce qu'interdire les écrans, c'est une idée. Mais encore faut-il les remplacer par des alternatives désirables et essayer de comprendre ce qu'ils y font et sans doute pourquoi ils y trouvent de l'intérêt. Donc on comprend bien, mais la phrase, je la retiens, considérer les enfants que comme des adultes de demain, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressants à l'instant T et non pas comme des enfants d'aujourd'hui. Mathilde Mathieu.
Oui, mais c'est vrai que la parole des enfants, elle est souvent peu considérée, méprisée, enfin considérée comme peu crédible. Il suffit de voir le sort qui a été fait pendant longtemps à Greta Thunberg, et à sa parole et à sa mobilisation, son engagement. Et pourtant, les enfants, ils ont des choses à dire, parce que c'est souvent ce sont les premiers concernés. Moi, je pense par exemple en ce moment à la mobilisation assez extraordinaire dans un champ qui est peut-être peu traité médiatiquement, encore que ça bouge aussi beaucoup, qui est celui de la protection de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance. l'enfance. Il y a 400 000 mineurs qui sont suivis parce qu'ils sont ou parce qu'ils étaient en danger dans leur famille par les services de l'ASE. Et on sait aujourd'hui que ces services de l'ASE dysfonctionnent à gogo. Enfin, on en est à une situation où, en fait, il y a des maltraitances institutionnelles au sein de l'aide sociale à l'enfance. Et il y a une mobilisation assez extraordinaire d'enfants placés, de mineurs qui, aujourd'hui, prennent la parole pour raconter ce qu'ils et elles vivent, essayer de faire bouger les choses. Donc, il y a des mobilisations. Et j'étais samedi dernier dans une manifestation parisienne qui a été lancée à l'appel du collectif enfantiste contre les violences faites aux enfants et aux ados. Il y avait beaucoup d'enfants dans le cortège. Hein. Il y avait des mobilisations dans une quarantaine de villes, soutenues par 80 organisations à peu près. Donc, un des slogans de la manifestation, c'était « L'enfantisme est devenu un mouvement social ». Et je crois que c'est vrai, si on veut être un peu positif,
vous pouvez définir l'enfantisme, parce que c'est un mot que l'on rencontre peu.
Ah, peut-être Marion le fera Marion. Beaucoup mieux que moi. Mais...
L'enfantisme, c'est le mouvement en fait, pour les droits des enfants. On peut faire une corrélation avec le féminisme.
D'accord. Comme ça,
Et l'infantisme, c'est la discrimination des enfants, à faire une corrélation avec le sexisme.
Voilà, comme ça, nous avons à chaque fois des événements et des mots miroirs pour bien comprendre. Mathilde Mathieu, vous avez aussi évidemment suivi les affaires dont je parlais tout à l'heure, l'affaire Betaram, évidemment, ou alors le procès de Joël Le Squarnec. C'est assez souvent à ces occasions-là dont on parle des enfants, mais des enfants en tant que victimes. Est-ce que pour autant ces affaires peuvent nous permettre une prise de conscience, notamment à faire le lien entre ces affaires-là et les cultures éducatives, ou alors l'aspect plus systémique des choses ?
Mais j'espère, enfin, par exemple l'affaire Betaram, j'espère que ça a été un accélérateur de la prise de conscience. Betaram, je crois que c'était dit dans le sujet tout à l'heure, c'est un lieu où en fait des parents envoyaient leur enfant en sachant que... En sachant la plupart du temps que bon, ils allaient un peu maltraiter, mais après tout, si ça permettait de les redresser un peu, c'était peut-être pas si mal. Le résultat, on le connaît. Hein, on a saisi l'ampleur des violences de toute nature qui ont été commises dans cette institution. Et l'affaire Betaram, elle a permis de libérer la parole, mais bien l'écoute autour des violences qui ont été commises dans beaucoup d'autres établissements privés et aussi dans des établissements publics. Hein, que la commission d'enquête qui a été créée à l'Assemblée dans la foulée, elle s'est penchée sur les violences commises et dans le public et dans le privé. Franchement, c'est un travail formidable qui a été réalisé par les parlementaires avec l'aide des collectifs de victimes. Il y a tout un tas de préconisations qui sont sur la table, qui sont intéressantes. Cependant, pour l'instant, elles ne sont toujours pas traduites en termes de politique publique. Et je retiens quand même un épisode très marquant de cette commission d'enquête. C'est le jour où François Bayrou a été auditionné et où il a été interrogé sur une gifle qu'il avait donnée en 2002, on s'en souvient sans doute, pendant la campagne présidentielle. Images, ouais. Et en fait, très très loin de faire un mea culpa, qui n'était quand même pas très compliqué sur ce geste qui remonte à plus de 20 ans, le Premier ministre a revendiqué ce geste-là comme un geste éducatif. Et en fait, moi, j'ai du mal à saisir comment c'est encore possible que le Premier ministre vienne dire devant la représentation nationale, alors que le Parlement a voté en 2019 une loi qui interdit les violences éducatives ordinaires, et bien qu'une gifle... Non seulement c'est pas grave, mais même ça peut être utile et ça peut être éducatif. C'est quand même un moment très symptomatique, je crois, de la part de déni encore de la classe politique.
Ou de la faible avancée des consciences à cet endroit-là, parce que comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu non plus de tollé au moment où il y a eu une revendication, en se disant finalement, après tout, c'est peut-être comme ça que ça marche. Et puis on voyait l'homme fort, celui qui arrivait à reprendre justement la main sur la conduite des enfants et donc indirectement de la nation, Marion Couerc.
Oui, c'est à l'époque, en 2002, il est même, il a grimpé dans les sondages d'un coup, quand il a giflé cet enfant. Donc la société lui a vraiment renvoyé que c'était bien, que c'était ce qu'il fallait faire, que c'était un geste attendu, forcément, qu'il ne va pas faire un mea culpa tout seul dans son coin 20 ans plus tard. J'ai été très étonnée des gens qui disaient, mais enfin, il n'a pas changé d'avis. Mais pourquoi il aurait changé d'avis ? Tout le monde lui a dit que c'était bien. Il est venu se pavaner dans les médias à l'époque. Personne n'a parlé de cet enfant, de l'humiliation, ensuite la stigmatisation qu'il a subie aussi. Donc évidemment.
Et de son exposition, parce qu'effectivement, ça a été filmé, ça a été multi-rediffusé. Donc effectivement, il y a à la fois un coup et une tâche aussi sur sa réputation par rapport à cet enfant-là. Mathilde Mathieu, on a parlé de deux affaires. Sur le procès Joël Le Squarnec, je le rappelle, qui a été condamné le 28 mai 2025 à 20 ans de réclusion pour viol et agression sexuelle. sexuelle sur 299 victimes et la moyenne d'âge de ces victimes avait à peu près 11 ans. On a pu dire aussi que sur cette affaire-là, il n'y a pas eu un traitement médiatique à la hauteur des enjeux. Je lisais notamment des articles d'un journaliste du Télégramme qui disait qu'au bout d'un moment, là, une fois l'effet médiatique passé des premiers jours, la salle se vidait de journalistes.
Oui, c'est vrai. Alors, elle ne s'est pas complètement vidée, parce qu'il y a des journalistes qui ont été présentes pendant les 3 mois des audiences. Et c'était parfois, évidemment, très difficile aussi à supporter, hein, vu les traumatismes qui étaient exposés à la barre. Mais c'est vrai que ça s'est étiolé. Et c'est vrai surtout que, à mon avis, on a un peu raté le traitement collectivement, puisqu'il y a tout un tas de sujets qui auraient dû émerger à la faveur de ce procès. Je pense à la responsabilité de l'ordre des médecins, encore aujourd'hui, hein, dans la manière dont sont traités les signalements ou dont les signalements ne sont pas faits. Sur aussi le traitement judiciaire des personnes qui sont condamnées pour de la détention de fichiers pédopornographiques, hein, puisque le Skouarnek, il avait été condamné en 2005. Il avait été repéré comme pédocriminel et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'exercer, notamment parce que la justice l'a condamné à une peine de prison avec sursis sans injonction de soins et sans interdiction de travail auprès des enfants. Donc ça aurait pu être intéressant d'aller voir comment aujourd'hui la justice gère ces cas-là. Enfin, il y avait plein de choses à raconter sans doute sur les moyens des enquêteurs spécialisés pour lutter contre cette pédocriminalité-là. Il y a eu un office, hein, mineur qui a été mis en place il y a quelques années, mais qui manque cruellement de moyens, cruellement d'effectifs, de moyens matériels, de logiciels pour travailler sur l'intelligence artificielle. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ces sujets-là, ils ont peu émergé. Alors, il y a eu quand même, il faut dire, je trouve, une belle place qui a été faite à la parole des victimes. Mais je trouve trop peu de sujets structurels qui ont été traités. Et les victimes, à l'issue de ce procès, qui étaient, bon, d'une part, pour la plupart très déçus du verdict, mais par ailleurs ont vraiment ressenti une forme de délaissement de la part des médias.
Delphine Solière, justement, dans ces histoires-là, notamment Betaram, ce ne sont pas des enfants d'aujourd'hui qu'on entend, c'est par définition des enfants du passé, ça pose aussi un problème.
Oui, parce que du coup, on met le focus sur des histoires qui ont 40 ans ou 35 ans, et on oublie les enfants victimes aujourd'hui, dont on sait qu'elles continuent à être victimes, majoritairement au sein de leur famille quand même. Hein. Faut aussi ne pas oublier ce fait.
C'est la force des statistiques qui le démontre, évidemment.
En famille, que ce soit d'un adulte, mais parfois entre enfants. Et ça, c'est... En fait, on met des tabous sur des tabous, et comme ça, on ferme la boîte. Parce que c'est intolérable d'imaginer qu'un grand frère ou un cousin puisse abuser d'un enfant petit. Donc, pour toutes ces raisons-là, on préfère crier à raux sur le baudet avec des histoires anciennes. Il y a Betaram, mais il y en a d'autres. Hein. De toutes les façons, c'est un mouvement où ce que vous parliez d'infantisme, c'est un mouvement profond dans notre société quand même, où l'enfant est quand même plus objet d'usage, de manipulation ou de contention que sujet de parole et sujet à faire grandir. Donc à partir du moment où on est un objet, on peut être traité comme un objet par toutes les personnes qui ont besoin d'objets pour assouvir leurs pulsions. Donc dès qu'il y a des enfants, et il n'y a pas que dans l'école privée, il y en a dans l'école publique, il y en a dans les mouvements sportifs, il y a eu des scandales quand même terribles dans le périscolaire à Paris cette année. Enfin, là où il y a des enfants, il y aura toujours des adultes qui viendront aller...
Et peut-être un traitement médiatique insuffisant justement pour ces histoires-là qui sont des histoires d'aujourd'hui qu'il faudrait mettre en lumière pour mieux les comprendre et pour mieux comprendre encore une fois le côté systémique de la situation.
Bien sûr. Et si on recensait tous les cas réguliers de violences faites aux enfants, peut-être qu'il y aurait, comme ce que fait certainement Mathilde Mathieu, un espèce de continuum dans le suivi des affaires. Peut-être qu'au bout d'un moment, les gens finiraient par se dire « bah, ça, c'est quand même pas normal
». Oui, s'il y avait une dizaine de journalistes qui écrivaient sur ces sujets-là en permanence, il y aurait un bruit médiatique qui nous obligerait finalement à regarder la réalité en face, Marie-Ancœur.
Mais en France, on est bien trop occupé à parler de l'enfant roi, voyons.
Alors, ça, l'enfant roi, dites-nous, c'est-à-dire que le sujet, c'est cet enfant qui aurait tous les droits.
Il faut se mettre d'accord. Tout le monde est ému des violences faites aux enfants. Si on demande aux Français, hein, je crois que c'est l'enfant bleu qui avait fait une enquête, 97% des Français disaient qu'ils voudraient que la maltraitance des enfants soit une grande cause nationale. On est d'accord là-dessus, mais on ne fait pas les corrélations avec notre vision de l'enfant qui crée ces violences, ce continuum. Et en France, effectivement, je parlais du filtre de la méfiance tout à l'heure, s'il a une mascotte, c'est la figure de l'enfant roi. C'est-à-dire cette figure de l'enfant qui aurait tout pouvoir sur nous, hein, la toute-puissance infantile, comme on en parle aussi beaucoup en France, et qui va finalement aller mettre le couvercle sur cet état de fait que c'est l'adulte qui a le pouvoir, c'est l'adulte qui est tout-puissant. Et c'est l'adulte, en fait, qui fait du mal aux enfants, et pas l'inverse. Et on a, comme ça, dans notre imaginaire collectif, plein de figures comme ça, de l'enfant roi, de l'enfant qui fait des caprices, d'une éducation qui doit être autoritaire, verticale, moi j'appelle ça la culture de la punition, et qui en fait ne nous permet pas d'accéder ni au discours de l'enfant sujet de droit, ni au discours d'une éducation qu'en France on taxe de positive, mais qui en fait est juste une éducation qui respecte les droits de l'enfant, hein. C'est pas négociable, hein, les droits de l'enfant.
Rien que le terme effectivement éducation positive est assez trompeur et symptomatique.
Totalement.
Une éducation positive, c'est-à-dire que si on enlève le positif, l'éducation ne l'est pas.
Non mais totalement, puis il y a vraiment aussi cette idée, on va tout de suite, les gens vont dire oui, mais du coup c'est des histoires de développement personnel, la psychologie positive. Non, les droits de l'enfant, comme vous le disiez tout à l'heure Delphine, ça a 100 ans, hein. Ça a commencé notamment avec Korczak dans les années 20, quoi. Ça n'est pas de base quelque chose ni de néolibéral, ni d'attrait au développement personnel, ça n'existait pas tout ça. Hein. Donc il faudrait remettre aussi un petit peu les concepts à leur bonne place, mais on ne peut pas le faire en France, parce qu'on est encerclé de représentations qui nous dépeignent les enfants comme des êtres qui nous veulent du mal, qui veulent nous nuire, qui sont par nature en fait mauvais et veulent nous dépasser. Et en tant qu'adulte, on ne peut pas, même si on veut, hein, on ne peut pas en fait aller contre ces normes et ces représentations qui nous façonnent dans nos relations aux enfants.
Ce que vous évoquez à l'instant, on l'a entendu dans le montage d'ouverture fait par notre réalisateur Sorge Leroy, avec justement ces chroniques humoristiques qui sont un peu de saison, où on va tourner en dérision l'enfant, et finalement c'est l'adulte, le parent, qui est un peu en position de victime, qui est obligé de subir à la fois un rythme, une société, des discussions qui ne l'intéressent pas. On voit que c'est une tendance qui est beaucoup utilisée en ce moment.
Énormément. Et d'ailleurs, en France, on le voit sur les réseaux sociaux aussi, hein, mais les gens font ce contenu parce que c'est ce contenu-là qui rapporte, en fait, de la visibilité. On le voit en France, des humoristes qui veulent faire décoller leur compte. Il n'y a pas mieux que de se moquer des enfants. Ça s'appelle la misopédie, hein, le mépris des enfants. Il n'y a pas mieux, en fait, que faire du contenu misopède pour faire grandir sa communauté. Et ceux qui vont aller, la petite minorité qui va oser dire « mais enfin, ça ne va pas, c'est humiliant », se font vraiment jeter, se font donc casser par cette majorité sous le signe de la culture de la punition et du filtre de la méfiance. Et on s'entretient comme ça dans un cercle extrêmement vicieux.
Même si on peut entendre dans un certain aspect que ce genre d'humour-là est un humour un peu progressiste à sa manière, c'est-à-dire que de sortir du rôle enfermé, par exemple, de la mère qui doit être parfaite, qui doit forcément aimer son enfant parce que c'est le plus beau, on sent, enfin, du moins j'ai l'impression, qu'il peut être aussi perçu comme une sorte de transgression par rapport à cette norme-là, d'oser dire être maman, être père, c'est finalement pas le plus beau métier du monde, oui c'est compliqué, oui on dort pas la nuit, oui c'est dur.
Bien sûr que c'est dur, mais ça, on ne remet pas en question non plus. Mais en fait, en France, on est tellement dans un filtre de la méfiance, on est tellement dans la culture de la punition, et on est tellement dans l'inversion des responsabilités entre l'adulte et l'enfant, qu'en réalité, ce contenu, ça ne fait que du mal. On ne peut pas avoir... D'ailleurs, si je compare avec la Suède, là, pour le coup, il n'y a pas ce genre de contenu sur les réseaux en Suède. Ce que les Suédois adorent faire, c'est mettre leurs enfants en scène quand ils se moquent d'eux. Vous voyez, c'est cette inversion.
C'est-à-dire, on rigole avec les enfants, mais on rigole pas contre les enfants.
On rigole des adultes.
Et on rigole des adultes.
Ce sont les enfants qui sont plus compétents et plus futés que les adultes.
Peut-être un avis, Delphine Solière, par rapport à cette différence dans le cadre de l'humour en miroir, rire de, rire avec ou rire des adultes.
Alors c'est très intéressant parce que nous, dans nos magazines, on a créé énormément de figures d'enfants. Hein, Ariol, Anatole, Tom Tom et Nana. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que Tom Tom et Nana, 40 ans, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est l'enfant qui tend un miroir aux parents qui peuvent se mettre en colère, hystériques. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez quand Adrien Dubouchon balance sa pyramide de chouquettes parce que les enfants ont fait une petite connerie qui est franchement tout à fait mignonne au regard de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et ça, effectivement, on voit de plus en plus que nos auteurs, quand ils imaginent des personnages, ils préfèrent les mettre sans parents plutôt que d'avoir à s'encombrer de cette figure, finalement, dont on ne sait pas très bien comment les traiter. Parce que si on écrit pour des enfants, comme auteur ou comme journaliste, on est obligé de se mettre à hauteur d'enfant, on est obligé de baisser une échelle, de les comprendre, de les écouter, de savoir qu'un 7 ans, ce n'est pas un 8 ans, ce n'est pas un 9 ans, que l'enfant avance très très vite et qu'on doit écouter ses mots, on doit écouter ce qu'il fait rire pour le toucher, l'émouvoir, le faire rire. Donc, ces auteurs-là deviennent très proches des enfants et du coup ne savent plus très bien comment traiter cette figure des parents.
Présentation des personnages.
Moi, c'est papa.
Et moi, maman.
Leur hobby préféré ? Me faire ranger ma chambre, me faire manger des légumes, me faire faire mes devoirs, me dire d'aller au lit. De véritables tortionnaires. Moi, mon jeu préféré, c'est de les faire tourner en bourrique. Je suis sûre qu'ils s'ennuieraient sans moi. Vous imaginez, vous, vivre dans un monde où personne n'aurait d'idées bizarres et farfelues ? Quelque chose me dit qu'on s'ennuierait drôlement. Heureusement, j'ai créé une nouvelle invention. Le détecteur de mortalitude. Un objet imparable pour trouver des gens comme moi, capables de faire 200 bêtises par seconde. Quelque chose me dit que ça va être mortel.
France Culture, la fabrique de l'information, François Saltiel.
Et dans cette émission, on s'intéresse au traitement de l'enfance en compagnie de Delphine Solière, qui est la directrice éditoriale du pôle jeunesse de Bayard, en compagnie de Marion Quirk, spécialiste des droits de l'enfant et de la culture suédoise. Je rappelle son livre « Une enfance en or » et « NoRD » pour une éducation sans violence et à hauteur d'enfant. Et avec Mathilde Mathieu, journaliste à Mediapart et qui a créé cet espace consacré aux droits des enfants. Mathilde Mathieu, tout à l'heure, Marion Quirk nous parlait justement de l'opinion des Français à l'égard des enfants et de la maltraitance. On voit que c'est finalement un consensus. Hein. Tout le monde, personne n'aime qu'on fasse du mal aux enfants. Ce qui vient de se passer récemment avec l'affaire Chine me semble assez symptomatique par rapport à ça. C'est-à-dire que Chine, ça fait quand même très longtemps qu'on pouvait imaginer qu'ils diffusaient et qu'ils produisaient des produits qui étaient loin d'être vertueux. Et puis d'un coup, il y a eu une sorte de mobilisation assez importante très récemment. Qu'est-ce qu'on peut penser? Comment on peut analyser justement cette affaire Chine avec ces poupées, donc ces poupées sexuelles, hein, qui représentaient donc des enfants de très jeune âge, peut-être même en dessous de 10 ans, où on surfe complètement dans la pédocriminalité.
Bon, c'est une affaire, je trouve, qui est intéressante. Enfin, il y a une part intéressante dans la médiatisation de cette affaire qui s'est concentrée essentiellement sur la responsabilité des plateformes. Et c'est vrai que c'est important et que par le passé, ça a pu être un peu négligé. Mais c'est vrai qu'on a eu moi, en tout cas, j'ai eu cette impression un peu bizarre que la France, d'une certaine manière, découvrait l'ampleur de la pédocriminalité et la banalité de ce mal-là. C'est en tout cas ce que dit dans un entretien à Mediapart une psychiatre, Anne-Hélène Moncani, qui travaille beaucoup sur les auteurs de violences sexuelles et sur l'ampleur des troubles pédophiliques en France. Et que moi, j'ai interrogé pour savoir si... Parce qu'elle pouvait nous dire, enfin, ce qu'on savait au fond de ces profils-là, c'est-à-dire des gens qui acquièrent ce genre d'objets sur les réseaux, sur Internet. Et en fait, sa réponse est assez simple, c'est que on n'en sait pas grand-chose. En fait, on a très peu de statistiques en France sur la proportion de troubles pédophiliques dans la population, alors que c'est des études qui existent dans les pays anglo-saxons, notamment, hein, où il y a des études qui montrent que c'est entre 3 et 10% de la population, donc c'est évidemment énorme. Mais en fait, en France, on s'est historiquement très, très peu intéressé aux auteurs de violences sexuelles, mais plutôt aux victimes, ce qui est évidemment indispensable, mais comme si la classe politique avait du mal à penser, à réfléchir à la fois aux victimes et à la fois aux auteurs, parce que évidemment qu'il faut enquêter, financer des recherches sur les auteurs de violences sexuelles, enfin pédocriminelles en l'occurrence, sur la prévalence des troubles pédophiliques pour mieux lutter contre, pour mieux les prévenir les passages à l'acte. Donc, j'ai trouvé intéressante la réaction de la haute commissaire à l'enfance, hein, Sarah El-Haïry, qui s'est saisie de ce dossier.
Qui est montée au créneau médiatiquement.
Qui est montée au créneau, et je trouve intéressant que d'en faire un sujet politique. Enfin, il était temps, mais j'ai lu très peu de choses sur ces acquéreurs, sur les gens qui vont consulter des images pédopornographiques sur le net. Voilà,
C'est la dimension économique, effectivement, qui a pris. Mais ici, on s'attaquait à Chine.
Ouais.
C'est dans l'air du temps, d'ailleurs, hein, puisque les grandes plateformes numériques sont pointées du doigt pour des raisons, d'ailleurs, tout à fait légitimes. Mais, encore une fois, peut-être l'occasion un peu manquée de s'intéresser à ces pulsions, à ce constat et, comme vous le dites, à ces acheteurs, d'essayer de mieux comprendre la sociologie de ces acheteurs-là.
Exactement. Et quand même, les moyens publics mis en œuvre en France sont dérisoires. Il existe, par exemple, depuis très peu d'années, d'ailleurs, ça a été fait il y a très longtemps dans plein d'autres pays à l'étranger, mais nous, on a eu un énorme retard là-dessus. Un numéro qui est un numéro de service public qui est disponible pour les personnes qui sentent une attirance pour les enfants et qui ont le sentiment d'avoir besoin d'aide. Ce numéro, par exemple, il a eu, je crois que c'était 3000 appels l'année dernière, ce qui est très peu au regard de l'ampleur de ce problème en France que j'évoquais tout à l'heure. Et il a été très peu appelé, ce numéro. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de campagnes de communication faites autour de ce numéro et des dispositifs pourtant existants pour ces personnes. Mais c'est un sujet qui est encore, je ne sais pas si tabou c'est le bon terme, enfin on est encore très très largement dans le déni.
Delphine Solière, je le rappelle, vous êtes chez Bayard, donc la presse jeunesse, un grand groupe de référence en France. Comment vous vous emparez de ces questions-là, de la pédocriminalité, des violences sexuelles ? Comment vous arrivez à traiter, à aborder ces sujets dans vos pages ?
En fait, pour nous, c'est un des sujets d'intérêt, un des sujets d'échange avec les enfants, parce que le principe de la presse, c'est d'être en relation avec ses lecteurs, et nous, on a la chance d'être une chambre d'écho très forte à tout ce que les enfants peuvent nous dire, nous écrire, quand on les rencontre. Et en même temps, en mouvement inverse vers eux, on a toujours une grande préoccupation d'éducation, et on a été parmi les premiers à faire un petit livre pour dire non. C'était 94, 89, Convention des droits de l'enfant, 94, petit livre pour dire non, qui était publié dans Astrapi, qui était un livret qui est devenu un livre sur les droits élémentaires des enfants. On a ensuite travaillé, à partir de l'an 2000, sur la prévention des violences sexuelles. En fait, nous, notre position, c'est de dire, on est un tiers éducatif, on n'est ni l'école, ni les parents, et on doit pouvoir, avec tout ce qu'on connaît des enfants, leur proposer des signaux d'alerte, de mise et des sortes de mise en situation pour qu'eux-mêmes arrivent à activer leur système de défense. Parce que sinon, ils n'en ont pas. Un enfant de 5 ans, il ne se rend pas compte qu'il est suivi dans la rue. Un jeune qui commence à faire de l'équitation, il n'imagine pas une seule seconde que son moniteur d'éducation peut vouloir s'approcher de lui, avoir des contacts physiques et compagnie. Pour lui, ce n'est pas dans son schéma mental. Donc nous, notre travail, c'est régulièrement de soit faire des livrets qu'on donne après en open source, c'est disponible sur le site de Bayard Genève, vous avez tous les documents qu'on a pu faire, pour les petits, pour les 3-7 ans, ça aussi c'est nouveau, autour c'est quoi mon corps, qu'est-ce qu'on a le droit de me faire ou pas, les enfants de l'âge primaire, et puis bien sûr les collégiens et les lycéens, où là ils rentrent déjà un peu dans la vie sexuelle et autour de ces notions de consentement.
Juste, j'y pense, c'est intéressant ce que vous dites. On n'est pas l'école, on n'est pas les parents. Ça veut dire aussi que quand on est lecteur, enfant de la presse jeunesse, on a un lien avec cette presse-là. Vous parlez de signaux d'alerte comme une relation presque intime. C'est-à-dire qu'on peut aussi attendre de cette presse jeunesse qu'elle nous donne des codes, des outils pour voir peut-être ce qui se passe mal chez nous, au sein même de notre famille, voire même de ce qui se passe du côté des parents. Donc on est dans le côté de la presse alliée.
Exactement, on est alliés et justement notre capacité de représentation en dessin, en photo, enfin tout ce qu'on peut faire est de plein de façons, façon reportage, mais façon jeu de société, quand on implique toute la famille sur un jeu de société sur les écrans. Par exemple, on propose des ateliers pour en famille arriver à lutter contre nos propres addictions. Enfin oui, tout ce qu'on peut faire permet de montrer avec des images différentes, avec des mots différents, mais en partant de ce que les enfants connaissent. En fait, on part toujours de ce qu'ils sont, pour aller un petit peu plus loin. Si on arrive avec une doxa qui descend du ciel, ça ne marchera pas.
Mathilde Mathieu ?
Oui, je voulais juste dire un petit mot sur une expérience que je trouve super intéressante qui a été faite par la CIVIS. Donc la CIVIS, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui était initialement co-présidée par le juge Édouard Durand, qui fait un travail formidable et qui s'est dit là récemment en fait qui a créé un groupe de réflexion d'adolescents, d'adolescentes, pour les aider à réfléchir à comment mieux lutter contre la pédocriminalité en ligne sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce sont les ados qui ont réfléchi, qui ont donné des conseils sur comment mieux prévenir, comment mieux informer les ados sur leurs pratiques, leurs usages, parce que si on connaît mal leurs pratiques, leurs usages, évidemment, on peut pas les aider. Et donc, il y a ce groupe de travail qui a été mis en place, et je trouve que c'est très intéressant de s'appuyer sur les ados ou les enfants, enfin, de les rendre acteurs, en fait, de la lutte contre les violences et de la prévention. C'est eux et elles qui sont le mieux placés, bien mieux que nous, pour raconter comment ça se passe en ligne et ce qu'il faut faire pour les aider.
Marion Querc, vous qui avez donc ce regard aussi suédois, voire plus qu'un regard, hein, vous y avez habité, on l'a dit tout à l'heure, quelle bonne pratique on pourrait justement essayer de développer aujourd'hui en France par rapport au traitement médiatique ou par rapport même à des médias qui pourraient se créer pour arriver à mieux considérer justement l'enfant dans l'espace médiatique et celui des récits?
On a besoin de reformater notre imaginaire collectif en France, littéralement. Enfin, par exemple, je pense sur la littérature jeunesse, je pense au personnage de Fifi Brin d'Acier. C'est assez symptomatique. En France, nous sommes le seul pays à avoir censuré Fifi Brin d'Acier. Hein.
Alors, rappelez-nous, Fifi Brin d'Acier, c'est quoi ses qualités, ses compétences?
Fifi Brin d'Acier, grande figure suédoise, hein, la petite fille rousse avec les deux couettes, qui est sortie en 1945, juste après la guerre, et qui a fait vraiment un tabac, bon, déjà en Suède, mais aussi globalement dans les pays nordiques, et puis en Allemagne et dans d'autres pays. Enfin, c'est un tabac mondial, on va dire, mais qui a eu plus de mal en France à intéresser les lecteurs. Et en fait, en 1992, il y a une Suédoise qui vivait en France qui a fait un article, une chercheuse, qui s'appelait Fifi Brin d'Acier ou la transformation de Pippi Långstrump, comme elle s'appelle en suédois, une anarchiste en camisole de force. Et donc, elle est venue en fait expliquer que donc Hachette avait retiré 4 chapitres au livre, avait rajouté des passages où Fifi s'excuse d'être désobéissante et de ne pas suivre les adultes, et ce genre de choses. Voilà, elle ne portait pas un cheval, elle portait un poney. Le grand monsieur le plus fort du monde qu'elle terrasse, qui s'appelle Adolphe le Costaud, on comprend pourquoi, en français il s'appelait Alphonse, comme ça il n'y a plus de connotation politique. Et en fait, on a vraiment, à travers ce personnage, compris à quel point cette image de l'enfant compétent, hein, cette image de l'enfant de plus futé que les adultes, quoi, finalement, en France, on ne l'a pas voulu. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des personnages justement français, et quand moi je pense aussi, ben voilà, quand je pense à Tom Tomelana, avec lesquels j'ai grandi, quand je pense à Titeuf aussi, c'est tous des enfants qui prenaient des coups par leurs parents, ou par leurs instits même, hein, quand il s'agit de Titeuf. Et en fait, ça faisait partie du paysage, c'était pas un sujet, quoi, vous voyez. Et souvent, j'ai vu que les programmes, justement, qu'on peut montrer en Suède français, à la télé, les programmes que les Suédois achètent du service public pour les mettre dans les chaînes pour enfants en Suède, ils sont changés ensuite un petit peu dans les traductions. Les Suédois modifient un peu les traductions, ils rendent les parents beaucoup moins autoritaires, beaucoup plus à l'écoute. Et inversement, quand on va aller en France prendre un programme suédois et qu'on va le traduire en français, on va durcir en réalité la relation entre les adultes et les enfants. Donc quand ça voyage d'une culture à une autre aussi, il se passe des choses. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait vraiment faire une analyse collective en fait de notre imaginaire collectif, arrêter de toujours parler de la figure de l'enfant roi, d'inverser les responsabilités entre les adultes et les enfants, s'intéresser beaucoup plus au monde des enfants, des petites actualités pour les enfants, ce genre de choses, et parler en fait vraiment des enfants comme des sujets de droit, de participation et des êtres humains à part entière.
Justement, là, Marion vient de parler d'imaginaire, ça vous concerne, Delphine Solière, parce que vous participez à la constitution de ces imaginaires avec la Pré-Jeunesse.
Tout à fait. Alors, on
et
est
même l'édition jeunesse.
L'édition jeunesse en général, nous on est une petite partie. Alors nous on a une chance folle, et on est un peu une anomalie dans le monde de la culture jeunesse dans le monde, c'est qu'on a cette presse qui arrive en masse en France, qu'on est très, très important. On a cette culture de la presse et donc du magazine qui arrive tous les 15 jours ou tous les mois chez des enfants, ou à l'école, ou à la bibliothèque. Donc on a cette relation qui est très forte, et donc on sait qu'on a une responsabilité énorme. Et je peux vous dire qu'on tourne notre crayon à 12 fois avant d'essayer d'imaginer une nouvelle scène. Quand on nous propose des personnages, on essaye à chaque fois de se dire est-ce que ça répond bien à ce qu'on a envie de dire des enfants. J'aime lire où j'ai longtemps travaillé. C'est vrai que ce qui est pour nous important, c'est le héros et comment ce qu'il va vivre va transformer sa vie. Et il y a quelques années, au moment de Noël, on avait sorti une histoire qui était très belle, qui s'appelait Les Trois Étoiles, et qui racontait comment une famille de Syriens a migré pour fuir la Syrie en guerre et arrive en Italie, puis en France, et par la voix des enfants qui vont retrouver d'autres copains de Syrie, se retrouvent. C'est une histoire qui nous avait énormément touchés parce qu'elle montrait des enfants capables de s'adapter, résilients, heureux de vivre et d'apprendre à découvrir une nouvelle culture. Et on a eu beaucoup de courriers, beaucoup de courriers d'enfants, beaucoup de courriers de parents.
Et les parents disaient quoi?
Ben, on a eu une partie des parents qui disent « Formidable, vous avez fait notre boulot, génial, et surtout que ça passe par la fiction, ça touche à l'émotion, on est ému. » Puis vous avez des parents qui nous ont écrit en disant « Mais attendez, vous n'avez pas parlé de politique aux enfants. Non mais d'où est-ce que vous utilisez l'émotion pour faire passer des idées politiques ?»
Volonté des adultes de reprendre la main justement.
Exactement.
Sur les récits. Mathilde Mathieu, là je m'adresse à la journaliste qui au quotidien tente de recueillir sans doute des témoignages témoignages des enfants. Il y a aussi pas mal de complexité par rapport au recueil des témoignages concernant les enfants. C'est pas simple, il faut des autorisations, il faut que l'adulte donne son accord. Est-ce que ça tient pas aussi à cette nature-là, à ce facteur-là, le fait qu'on ne voit pas ou peu les enfants dans l'espace médiatique ?
Si, bien sûr, vous avez raison. Il y a des difficultés tout simplement d'ordre juridique, des difficultés matérielles, une prudence extrême parce qu'on sait très bien qu'on expose quand on cite des gens dans un article. Et donc, faut prendre beaucoup plus de pincettes avec un enfant qu'avec un adulte. Donc, évidemment que c'est compliqué. J'essaie de le faire, mais c'est compliqué. Ça a été compliqué lors des révoltes urbaines de 2023. C'est compliqué. Mais justement, sur ces révoltes urbaines, parce que... Je voulais dire un mot quand même sur l'extrême droitisation du débat en France sur les questions de l'enfance aussi, parce qu'au fond, on a une société de plus en plus polarisée. On a d'un côté ce qu'on a décrit, donc une société civile qui s'organise de plus en plus pour dénoncer les violences faites aux enfants, voilà, l'enfantisme, qui est un concept qui s'installe, etc. Et puis quand même un débat politique sur l'enfance qui est vachement cadré par l'extrême droite, par des médias d'extrême droite qui nous racontent, je mets des gros guillemets, l'ensauvagement hein, de la société, les émeutiers des quartiers populaires, qui cadrent le débat politique sur les violences faites aux enfants. C'est très frappant en ne médiatisant que les cas de violence, au fond de meurtres d'enfants blancs par des personnes racisées / musulmanes, qui on a un débat qui est en politique qui est envahi par ce cadrage politique là. Ça a été vrai au moment de l'affaire Lola, de l'affaire Philippine, de l'affaire Elias qui a été tué à Paris, Matisse à Châteauroux qui avait été tué par un mineur réfugié politique. Donc c'est ces affaires là qui envahissent nos écrans. C'est donc voilà, je voulais quand même dire un mot sur ce sujet parce que c'est voilà.
Marion Kirk, peut-être pour terminer avant de rejoindre la médiatrice de Radio France, peut-être un signal d'espoir que vous voyez. On a bien compris qu'il fallait repenser nos imaginaires en France. On a bien compris qu'il y avait du travail à faire. On l'a expliqué finalement entre les lignes, culturellement, historiquement, par rapport aux spécificités de notre pays. Qu'est-ce que vous voyez peut-être de positif ici en France aujourd'hui pour que les choses changent ?
Moi, je pense que justement, les violences sexuelles sont la porte ouverte, en fait, vers ces sujets-là en France qui, jusqu'ici, ont été vraiment... La porte, elle est fermée à double tour, quoi. Mais on voit que par les violences sexuelles, on commence à s'intéresser au sujet. Après, bon, je pense pas que l'enfantisme soit encore bien installé dans la société, non. Clairement, ça vient juste d'arriver. En plus, la manif samedi, c'est la première fois qu'il y a eu du monde. L'année dernière, il y avait à peu près personne, quoi. Donc, voilà. Mais il y a, je pense, une synergie un peu, voilà, entre les sujets des violences sexuelles, entre, ça y est, le féminisme qui semble un petit peu se réveiller sur ces sujets-là, et pas qu'au niveau des violences sexuelles. Et, voilà, d'ici 5 ans, je pense que ça sera bon, quoi.
Voilà, d'ici 5 ans, ça sera bon. En tout cas, on saura qu'on aura fait cette émission 5 ans avant pour essayer de prendre le temps de parler de toutes ces thématiques. Et je vous en remercie. Tout de suite, on retrouve Emmanuel Davier, le rendez-vous de la médiatrice avec Nathan Devers.
Nathan Devers, bonjour.
Bonjour.
Un titre aussi programmatique que Sans Préjugés invite à explorer à la fois votre démarche intellectuelle et votre posture journalistique. Ce titre est fort, Sans Préjugés. Que signifie-t-il pour vous ? Est-ce un idéal, une méthode ou bien une utopie ?
Je crois que c'est à la fois un idéal et une méthode, et donc une utopie. C'est-à-dire une méthode, quelque chose qui doit dicter le travail qu'on essaye de faire dans Sans Préjugés, mais une utopie parce que c'est une méthode qu'on ne peut jamais satisfaire pleinement. L'aspiration à penser sans préjugés, elle vient d'un mouvement philosophique très important qui s'appelle le scepticisme, l'art de douter, autrement dit l'art de questionner, autrement dit l'art de se défaire de toutes les certitudes, de toutes les vérités provisoires et trop rapides qui viennent, je dirais, embrouiller notre pensée avant même qu'elle n'ait commencé à réfléchir. On ne peut jamais réussir pleinement à penser sans préjugés, mais on peut s'y employer radicalement et totalement, et c'est ce qu'on essaye de faire dans l'émission qui en porte le nom.
Et selon vous, quels sont les ingrédients d'une émission réussie quand on veut éviter précisément les préjugés ?
Je dirais qu'il y a plusieurs ingrédients. Le premier ingrédient, c'est d'essayer de trouver la bonne question. On essaye d'avoir un rapport dans Sans Préjugés avec Aline Biette, qui prépare l'émission avec moi, de bonne distance par rapport à l'actualité. C'est-à-dire de questionner, comme disait Foucault, la philosophie, c'est l'art de penser l'aujourd'hui, mais d'essayer de penser notre époque sans reprendre forcément telle quelle les questions qui peuvent agiter notre débat public. Et essayer de façonner nos propres questions par rapport parfois à des phénomènes d'actualité qui peuvent être un peu souterrains. Par exemple, dans la dernière émission, l'essor de l'autofiction par rapport, entre guillemets, au roman classique. Mais essayer à partir de là de façonner nos propres questions. Le deuxième ingrédient, c'est évidemment la légitimité de nos invités, c'est-à-dire des invités qui ont travaillé sur le sujet, mais au sens très large du terme travailler. Je crois qu'une émission, c'est aussi une agora, c'est aussi un dialogue au sens platonicien. Donc pouvoir recevoir des artistes, des chercheurs, des membres de la société civile, mais qui ont un rapport quand même d'intimité avec le sujet et avec donc une différence de perspective, mais dont nous essayons de faire en sorte qu'elle ne tombe pas dans le clash et dans des polémiques préfabriquées.
Avez-vous parfois le sentiment que le format médiatique, ou par définition le temps est limité, entre en tension avec cette ambition de complexité qui est la vôtre ?
Je crois que c'est toute la difficulté de l'exercice médiatique. Une difficulté d'abord technique, le temps est compté dans les médias, et alors pour le meilleur, bien sûr, mais aussi avec cette grande difficulté que la pensée, la réflexion, je crois, s'accompagne toujours d'une forme, ou en tout cas très souvent, de lenteur, de patience du concept, parfois aussi d'hésitation, de balbutiement, de capacité à revenir en arrière. Quand on voit, à part peut-être dans quelques aphorismes de Nietzsche, mais quand on voit une pensée en train de se constituer, il y a toujours une forme de lenteur. Et cette lenteur-là, est-ce qu'on peut essayer de la restituer dans l'espace plus resserré d'une émission ? C'est ce que nous essayons de faire Sans Préjugés, où nous laissons par exemple les invités parler parfois assez longtemps pour montrer vraiment la manière dont leur pensée se construit dans la nuance, dans le refus des étiquettes toute faite, et donc dans le concept.
Comment en faites-vous pour ne pas imposer vos propres préjugés au cours de vos échanges ?
C'est ça justement qui fait tout le bonheur absolu que j'ai à animer cette émission, c'est que évidemment, quand on travaille sur un sujet, on peut, et je peux évidemment, avoir des parts de préjugés. Par exemple, je vous donnais l'exemple de notre émission sur l'autofiction et le roman. Je pouvais, avant de commencer à travailler sur cette émission, penser qu'il y avait une sorte de frontière rigide entre l'autofiction et le roman classique d'imagination. Maintenant, tout le travail qu'on fait, le travail dans la semaine, consistant à réfléchir, à lire les ouvrages des invités, à se documenter sur le sujet, et évidemment ensuite le travail d'émission, c'est d'essayer de questionner aussi mes propres préjugés, et parfois de mettre en scène, ou en tout cas de montrer dans l'émission, la manière dont ma parole peut être située, et où j'essaye de questionner cette situation qui est celle de ma position vis-à-vis des sujets qu'on aborde.
Finalement, tout l'intérêt, c'est d'avoir face à soi des gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord.
Exactement. Ou pas d'accord et différent. Et parfois, d'ailleurs, il y a des invités qui peuvent être en désaccord les uns et les autres. Mais dans notre émission, curieusement, au lieu de se clasher, au lieu de se taper dessus, eh bien, ils se mettent à aborder leurs différences sous un angle précisément nouveau et différent.
Avez-vous parfois, au cours des échanges, réévalué totalement votre position par rapport à des sujets ?
C'est arrivé, en effet, que dans une émission, entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a des grandes évolutions. Par exemple, nous avons fait une émission sur les 10 ans du 13 novembre récemment. Et il est vrai qu'avec les invités que nous avons reçus, qui étaient sociologues, qui étaient philosophes et qui étaient historiennes, anthropologues, eh bien, ça m'a permis de revoir complètement différemment la manière dont la société française avait pu s'approprier, souffrir et essayer de dépasser le traumatisme de cette date que nous avons toutes et tous vécu. Donc oui, c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est sortir différent de l'émission que nous faisons.
Puisque nous sommes dans une émission consacrée à la fabrication de l'information, diriez-vous que votre parcours reflète deux manières très différentes de fabriquer du sens entre vos chroniques passées sur une chaîne de télé privée où la logique de l'expression est dominée par l'opinion au détriment de la nuance, et votre émission Sans Préjugés, qui est un lieu de réflexion? Comment vivez-vous ce grand écart intellectuel ?
Ce grand écart, quand j'étais étudiant, avec mes copains, mes camarades, on avait ce sentiment qu'aujourd'hui, dans la société française, il y a une forme de schisme, d'immense grand écart entre deux manières d'être intellectuel. l'intellectuel dit académique, je schématise un peu, hein, qui pratique son travail dans l'espace de l'université ou de la recherche, et l'intellectuel dit médiatique, qui va dans la caverne, entre guillemets, que sont ou que peuvent être les médias. Je crois que tout l'objet de la génération qui vient et de notre époque, c'est d'essayer de dépasser ce schisme.
De faire la synthèse ?
Exactement, et c'est d'essayer de trouver une troisième voie. Et cette troisième voie, elle suppose parfois de faire ce que vous avez appelé un grand écart, ou en tout cas d'aller dans des domaines ou dans des endroits où il n'était pas évident qu'on puisse parler tantôt de philosophie, tantôt de littérature, tantôt d'idées. Et il me semble que le débat d'idées est vraiment la grande condition pour qu'une société tienne debout en tant que démocratie.
Merci Nathan Devers.
Merci beaucoup à vous.
Et merci Emmanuel Davier, le rendez-vous de la médiatrice à retrouver bien sûr sur l'application Radio France. Je remercie Marion Quercq, Mathilde Mathieu et Delphine Solière d'être venues aujourd'hui dans la Fabrique de l'Information pour traiter de ce sujet ô combien important, à retrouver également en podcast. Je remercie à la préparation de cette émission Joséphine Reynard, à la réalisation Sorge Leroy et à la vidéo Félix Delacour.